97.7. Le son d'enfant, émission radio des enfants qui s'engagent. Le son d'enfant,
une production des élèves de la 6e 1 du CEG Gadomain au Bénin en partenariat avec l'ONG Lomou en Belgique et l'ONG Tarotou Jeunesse Bénin.
Auditeurs de la radio Mono FM, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue au cœur de l'émission radio des enfants qui s'engagent avec les élèves de la 6e M1 du CEG Gadomé au Bénin. Pour conduire cette émission, je suis Fête Patti. Je suis dans ce studio avec Kinel Sotondji, Yehwenu Marivo, Jean-Paul Adaoumé. Notre émission portera sur les changements climatiques. Eh bien Kinel, par où allons-nous commencer le développement de ce sujet brûlant?
Merci à toi, Fred, pour cette introduction. Ces dernières années, les effets des changements climatiques se font de plus en plus nombreux à travers le monde. Face à cette situation, les dirigeants du monde se sont déjà réunis à plusieurs reprises sur la question. Mais les retombées de ces assises ne se sentent pas sur le terrain. Monsieur Didier Hubert Madafime est journaliste à la Radio Nationale du Bénin et spécialiste des questions d'environnement et du climat. Nous avons longuement discuté avec lui et voici la substance de nos échanges.
Monsieur Didier Hubert Madafime, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes des élèves de la 6e 1 du CEG Cadomé. Nous sommes avec vous ce matin dans le cadre de la réalisation d'une émission radio appelée Le Son d'Enfant. Une émission radio d'envergure internationale réalisée par les ONG Carrefour Jeunesse du Bénin et Géomonde de la Belgique. Eh bien, monsieur Madafime, nous avons quelques questions à vous poser. Êtes-vous prêt à nous accompagner dans cette aventure?
Merci beaucoup. Je suis ravi de me retrouver devant des jeunes, des enfants, qui s'intéresse à un métier que j'ai fait pendant plusieurs décennies. Et je suis très ému et très heureux que ce soit vous. Je suis prêt à répondre à toutes les questions.
Eh bien, monsieur Didier Hubert Madafime, vous êtes journaliste à l'ONTB, spécialiste des questions d'environnement et du climat. Dites-nous donc, que doit-on comprendre à travers le vocable changement climatique et comment cela se manifeste-t-il?
Je sais que vous êtes des enfants, vous n'allez pas comprendre les termes scientifiques. Je vais prendre juste deux exemples pour vous montrer comment on peut expliquer les changements climatiques. Vous êtes de petits enfants, vous avez de petites copines avec qui vous partagez les classes. Vous avez l'habitude tous les matins quand vous arrivez de faire la bise à la petite copine. Et puis, vous le faites pendant 4 mois. Et puis un jour, vous la rencontrez, vous la saluez seulement, vous la dépassez. Elle a dit, le monsieur là a changé. Et puis pendant un bout de temps, 1 ou 2 mois, vous la rencontrez et vous reprenez les mêmes habitudes. Ça, c'est un premier exemple. Le second exemple, vous avez une petite amie à qui vous faites la bise tous les matins pendant peut-être 4 mois. Et puis un matin, vous cessez, vous la rencontrez, vous la saluez et puis vous passez votre chemin. Si vous maintenez cette position pendant une longue année, la petite copine va dire « Ah, ce monsieur-là a changé ». C'est-à-dire que dans le premier cas, on peut parler de la variabilité climatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous faites quelque chose, vous arrêtez un bout de temps et puis après, vous reprenez. Dans le second cas, on peut parler de changement climatique parce que ce que vous faites pendant un bout de temps, vous arrêtez. On peut comparer ces deux exemples-là à ce que nous vivons aujourd'hui. Que si je prends par exemple la saison des pluies, avant, la pluie s'étale dans le temps et dans l'espace. Le paysan, quand il sait qu'il apprête son champ et qu'en masse, ça démarre, et qu'en masse, la pluie démarre, il a le temps de semer et de récolter après. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le paysan apprête son champ, il sait qu'il va semer dès les premières pluies. Les premières pluies arrivent, il sème. Et puis au bout de 2 ou 3 ou 4 jours, la pluie s'arrête brutalement. Ce qui se passe, c'est que la graine qu'on a semée, dès qu'elles n'ont plus les moyens de continuer par pousser, ces graines-là meurent. Et le paysan perd. Et est obligé de reprendre par la suite la même chose. Voilà comment on peut expliquer les manifestations des changements climatiques. Aujourd'hui, il est difficile de dire quand est-ce que la pluie commence et quand est-ce que la pluie s'arrête. Il y a un glissement. Nous sommes en juin, vous constatez que même jusqu'en juin, il continue de pleuvoir. Donc, il y a une variation dans la saison, ce qui perturbe suffisamment les activités agricoles. Et ce n'est pas ça seul. Les changements climatiques perturbent l'agriculture, les ressources en eau, les forêts, l'énergie, tout ce que vous voulez. Donc, les changements climatiques sont un facteur de déstabilisation de tous les pays. Ce n'est pas seulement les pays en voie de développement, mais aussi les pays développés. Sauf qu'eux, ils ont la capacité de faire face régulièrement aux événements qui arrivent. Voilà ce que je peux vous dire très brièvement par rapport à la première question.
Quels sont les domaines qui sont touchés par les modifications climatiques, M. Madafine?
Bon, c'est selon chaque pays. Hein. Je vais prendre l'exemple du Bénin. Le premier secteur qui sera touché, c'est le secteur de l'agriculture. Et vous savez, si on ne produit pas, on ne peut pas manger. Donc, c'est un secteur fondamental. Le second secteur, ce sont les ressources en eau. Le Bénin a identifié un certain nombre de secteurs, par exemple l'érosion côtière, l'énergie, les forêts. Voilà, ce sont ces secteurs-là que notre pays a identifié comme des secteurs qui peuvent être touchés par les changements climatiques. Les autres pays peuvent choisir autre chose, mais à notre niveau, voilà ce que notre pays a choisi. C'est l'agriculture parce que c'est la base de l'économie de notre pays, c'est l'agriculture. Les ressources en eau, vous savez, c'est très important. L'eau, c'est la vie. Les forêts, parce que, vous savez, sans les forêts, d'abord, ce sont les forêts qui captent l'oxygène et qui captent le CO2, le gaz carbonique, et rejettent l'oxygène dans l'atmosphère. Donc, si on n'a pas l'arbre dans un environnement, ce n'est pas bon. L'énergie, parce que de plus en plus, le pétrole et autres, les gaz et autres sont en train de finir. Donc, si on ne pense pas à une transition énergétique, on aura des difficultés à avoir de la lumière, à faire un certain nombre de choses qui nécessitent une source d'énergie. Bon, voilà ce que je peux vous dire brièvement par rapport à ces questions.
Qu'est-ce qui est à la base du phénomène des modifications du climat?
C'est une question pertinente. Les enfants comme vous ne peuvent pas comprendre, c'est pour ça que je vais expliquer ça de façon terre à terre. Depuis que le monde a existé, l'homme a commencé par chercher à se développer. Pour se développer, l'homme a utilisé des machines, a utilisé un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on a le train, aujourd'hui, on a l'avion, aujourd'hui, on a les usines et autres. Donc, quand l'homme a commencé par mettre en place ces instruments qui sont des instruments de confort qui nous permettent de voyager, qui nous permettent d'avoir un petit confort, il a en même temps commencé par modifier la structure du climat, a commencé par perturber l'environnement. Et au départ, on ne savait pas ce qui se passait. Il a fallu qu'un certain nombre de difficultés se posent et que les scientifiques ont commencé par nous alerter, que les gens puissent se dire « Ah, effectivement, on a un problème. » Mais au départ, ça a été difficile parce que les gens ne voulaient pas comprendre. Les gens ne voulaient pas associer la modification du climat aux activités de l'homme. Il a fallu une petite bataille entre les scientifiques pour que finalement, le plus grand nombre découvre que s'il y a changement climatique aujourd'hui, c'est le fait de l'homme. Faut pas oublier aussi que le climat peut changer naturellement. Donc, il y a deux phénomènes qui modifient le climat. Naturellement, le climat change parce que c'est pas le climat qu'on a dehors, là, qu'on a à l'intérieur de ce bâtiment. Ensuite, on a utilisé un certain nombre de choses pour modifier la structure du climat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes qui sont des phénomènes extrêmes. Déjà en 92, non, je vais partir même de 88. En 88, le secrétaire général a demandé à une dame de faire l'état des lieux de la planète. Et c'est ça qui a été à l'origine du rapport Notre Avenir à tous. Et ce rapport a montré que tel que nous nous comportons aujourd'hui, c'est que le monde va à sa perte. Et finalement, Il y a eu aussi en 92 la réunion à Rio de Janeiro où il a été mis en place la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas comprendre, mais il y a un travail qui a été fait pendant de longues années pour montrer que le climat change. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, les gens de plus en plus sont tombés d'accord que le climat change et à partir de là, ils ont commencé par chercher des solutions. C'est ça qui fait les conférences annuelles sur le climat. Ils sont des rencontres, des réunions où les scientifiques, les chefs d'État, les hommes, tout le monde arrive pour réfléchir à comment il faut régler la question du climat.
Les enquêtes ont montré que, bien que les Africains n'aient pas une très grande responsabilité dans ce qui se passe actuellement au plan climatique, ce sont eux qui en subissent plus les conséquences. Alors, dites-nous, quelles sont à l'heure actuelle les conséquences des changements climatiques au Bénin en particulier et en Afrique en général?
La question a deux volets. Le premier volet, c'est vrai, les pays africains ne sont pas des pays qui sont des pays émetteurs, c'est-à-dire que des pays qui produisent, ont beaucoup d'industries qui produisent les gaz à effet de serre qui sont responsables des changements climatiques. Quand on prend tous les 54 pays africains, ils sont à peu près à 5% de production de gaz à effet de serre. Dans ces 5%, vous avez trois pays qui sont déjà des pays qu'on peut qualifier d'émergents, le Nigeria, l'Égypte et puis l'Afrique du Sud, qui sont des pays qui ne sont plus au niveau où se trouvent nos pays, qui font des efforts pour se développer. Donc, si on prend les 5% de pollution en Afrique, la pollution est marginale, c'est-à-dire que ce n'est pas consistant. Effectivement, tous les pays vont subir parce que l'atmosphère est unique. Il n'y a pas l'atmosphère pour les États-Unis, il n'y a pas une atmosphère pour les Chinois, une atmosphère. L'atmosphère est unique. Et ce que vous devez comprendre, si vous posez un acte aujourd'hui ici, ça peut avoir des conséquences aux États-Unis. C'est ce qui fait que ce qu'ils ont créé là-bas, les Chinois, les Américains, tous les pays développés, ça réagisse sur nous ici. Donc, pour vous montrer que l'Afrique n'est pas un continent émetteur, mais comme l'atmosphère est unique, nous sommes obligés de subir les conséquences des réchauffements climatiques. Et puis, quand vous parlez de conséquences, vous savez que tous les ans, depuis un certain moment, nous avons les inondations. C'est-à-dire, la pluie qui s'étale dans le temps et dans l'espace ne se fait plus. Une pluie de 3 mois peut tomber pendant une journée, alors que on n'a pas. Nos sols sont des sols hydromorphes. Les sols-là n'arrivent pas à retenir une trop grande quantité d'eau à la fois. Ce qui fait que l'aménagement de nos villes ne correspond pas surtout à un schéma. Forcément, la place de l'eau est occupée par les hommes et puis l'eau cherche d'autres moyens pour s'installer, ce qui fait qu'on a l'inondation, surtout au sud du Bénin. Au nord, on a ce qu'on appelle la sécheresse. Il y a un déficit pluviométrique. Quand il pleut au sud, il pleut moins au nord. On a la sécheresse, on a la désertification. Si on arrive au sud, vous avez l'érosion côtière, puisque dès qu'il fait chaud, qu'il fait plus chaud, l'océan, l'eau qui est dans la mer, augmente de volume, se dilate et augmente la quantité qui est dedans. Ce qui fait que si vous regardez par exemple les régions comme Grand Popo, Ago et autres là, souffrent aujourd'hui de l'érosion côtière. Et puis de l'autre côté, vers Apapa et autres là, souffrent de l'érosion côtière. Nous avons 125 km de côte qu'on aura des difficultés à protéger. Si on ne le fait pas, bon, ça peut ne pas être en notre temps. J'espère qu'on trouvera un moyen pour le faire. Sinon, il y a des villes qui vont disparaître. Vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des villages comme Hokwe, des vers comme Diondo qui ont disparu parce que un matin la mer a envahi ces villages-là. Les gens qui sont dedans là sont obligés de partir.
Y a-t-il sur les autres continents des exemples de situations que l'on peut considérer comme conséquences des changements climatiques?
Ils souffrent plus que nous. Hein. Nous, on n'a pas d'ouragan ici, on n'a pas de cyclone. Vous pouvez un pays comme les États-Unis, c'est au moins par an plus de 300 cyclones, ouragans, typhons et tout ce que vous voulez. Ils souffrent plus que nous. Ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont, ils ont la capacité, quand ça arrive, de trouver les moyens pour réparer. Donc aujourd'hui, chaque fois qu'il y a ce genre de phénomène, c'est comme si vous n'avez jamais existé. Ça annihile tout ce que vous avez fait comme développement, tous les efforts que vous avez fait. Donc, il y a beaucoup de... Si vous regardez la télé depuis hier, vous regardez le Japon, c'est piteux. La région d'Hiroshima est envahie totalement. Hier, le point qui est fait, c'est qu'il y a eu 169 morts déjà et 100 disparus. Alors, on est juste au début, c'est assez terrible. La dernière fois, je crois, il y a un ou deux mois, si vous avez regardé la télé à Abidjan, ça a été une catastrophe. Heureusement que au Bénin, la situation jusque-là est limitée. Mais si on ne fait rien, on risque un jour de se retrouver dans des problèmes compliqués. Quand à chaque fois qu'il peut pleuvoir, il y a une certaine multiplication de vent qui passe d'abord avant la pluie. Si vous avez une maison qui n'est pas bien solide, ça peut l'emporter. De temps en temps, vous entendez le vent décoiffer une école par ici, à décoiffer un village, voilà, on est en difficulté. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que les gens ne prennent pas la mesure de ce qui nous arrive.
Doit-on dire que les changements climatiques font partie des obstacles au développement en Afrique?
Pas seulement en Afrique, c'est dans tous les pays. J'étais à la COP 23 en décembre dernier à Bonn. La COP 23, c'est la réunion des chefs d'État de tout le monde sur le climat. Et la COP 23 a été organisée par une île. Déjà, les îles, leur souci, c'est de devoir disparaître un jour. Parce que dès que le réchauffement climatique va s'accentuer, les glaciers qui sont au pôle, parce que depuis que le monde existe, il y a des zones où il n'y a que la glace. C'est-à-dire que l'eau s'est formée en glace. Donc, quand la température est élevée, vous avez l'habitude de manger la glace. Quand on sort la glace du frigo et on dépose ça dans un plat, qu'est-ce qui se passe? Ça commence par se fondre, ça se fond. Donc, si la température est élevée dans ces régions-là, l'eau qui est concentrée là, ça se fond. Et quand ça se fond, ça se déverse dans l'océan. Et puis, l'eau monte. Il y a par exemple les îles comme Madagascar, les îles, les Seychelles, un certain nombre d'îles, que si on ne fait rien, on va disparaître. C'est extrêmement compliqué. Quand on prend le cas de Rockway ou de Chloé, c'est-à-dire que là où vous avez vécu, là où se trouvent vos racines, un matin, l'océan déborde et occupe toute la place. Et vous devez prendre votre sac et partir sans le voir. Alors qu'on a enterré vos parents, vous avez des éléments. Votre racine, c'est là. Vous devez partir. C'est démoralisant.
Les dirigeants africains et du monde prennent-ils, à votre avis, M. Madafimé, les mesures qui s'imposent pour sauver la planète au plan climatique?
C'est une question assez compliquée. Enfin, je ne suis pas sûr. Parce que les changements climatiques, c'est une question économique, une question politique, une question géopolitique. Beaucoup de questions qui se posent. Quand vous regardez un peu les Chinois, ils sont 1 milliard. Quand j'étais en Chine, ils étaient 300, je crois, ils doivent être beaucoup plus maintenant. Eux, leur problème, c'est comment se développer et dépasser les États-Unis. C'est la compétition là qu'ils font. Les Américains qui ont été les premiers à polluer et veulent toujours être de grands pays. Vous avez tout le temps qu'on a fait pour avant d'arriver à l'accord de Paris sur le climat. C'est depuis 1995 qu'on a commencé, qu'ils ont commencé par faire la réunion. Moi, j'ai pas l'impression que ça préoccupe si tant. Bon, il y a des réunions dans lesquelles les gens parlent, les gens parlent de changement climatique. En 2015, j'étais à Paris pour la COP21. Mais avant d'aller à Paris, j'étais à Rabat, au Maroc. À Rabat, au Maroc, on a réuni tous les scientifiques parce que déjà à la COP20, on a demandé à chaque pays de dire quels sont ses niveaux de pollution, qu'est-ce qu'il fait pour réduire ces effets-là, et ensuite, quels sont les moyens qu'il mobilise dans ce cadre-là. Donc, quand les scientifiques se sont réunis à Rabat, ils ont fait un certain nombre de simulations. Ils ont constaté que, quel que soit ce qu'on fait, on ira jusqu'à un réchauffement de 3,5 degrés. Si on va à 3,5 degrés, le monde est foutu. Donc, moi je me dis, une fois qu'ils ont eu cet élément-là, quand on sera à Paris, ça va être comme une lettre à la poste. Chacun va dire, alors voilà ce qu'on fait pour arrêter la catastrophe. Mais je n'ai pas noté que les gens ont fait des efforts, sinon qu'il y a mal. C'est-à-dire, on dit, quand vous connaissez le mal, vous pouvez trouver les moyens pour le guérir ou le réduire. Mais on connaît le mal, on sait qu'il y a le réchauffement climatique, on sait que le climat change. Et depuis qu'on a quitté Paris en 2015, il était question qu'on laisse sous le sol les 80%. Parce que ce qui aggrave le réchauffement climatique, c'est le pétrole, le gaz, et tout ce qui est dans le sol que les gens exploitent là. Et ça, c'est ça qui produit les gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre détruisent la structure climatique. Donc on a dit, bon, on doit laisser les 80%, c'est faux. Si vous prenez 2015 par rapport à 2010, les gens ont produit beaucoup plus de gaz à effet de serre qui sont allés dans l'atmosphère depuis qu'on a quitté on a quitté Paris. Et aujourd'hui, ça augmente à un rythme. Les pays comme l'Arabie Saoudite, ces pays-là, c'est un des pays du pétrole. Ils ne veulent rien attendre. Ils veulent continuer par produire le pétrole, produire le gaz et tout. Moi, je n'ai pas l'impression que les gens font des efforts.
Que peut faire le citoyen X béninois, africain ou du reste du monde pour contribuer à son petit niveau à la lutte contre le réchauffement climatique?
Vous êtes des enfants. Ce que vous pouvez faire à votre niveau, c'est de sensibiliser. Sensibiliser vos parents. Vous êtes ici, on a fait cette émission. Vous pouvez sensibiliser les gens par rapport à ce que vous avez entendu. Vous pouvez sensibiliser les taximans qui achètent de l'essence n'importe où, n'importe comment, et dont les voitures produisent ce qu'on appelle le CO2,
oui,
le gaz carbonique. Or, parmi les gaz à effet de serre, il y a le gaz carbonique, il y a le méthane. Le méthane, c'est que quand vous déposez des ordures quelque part, la partie qui n'a pas de contact avec l'air produit ce qu'on appelle le méthane. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre terrible. Donc, à votre niveau, c'est sensibiliser, donner l'information, sensibiliser les parents, sensibiliser par.
Merci à vous, monsieur Madafime, de nous avoir accordé un peu de votre temps précieux.
Merci beaucoup, mes chers enfants. Je suis très content ce matin de répondre à votre question. Ce que je voudrais dire, vous avez commencé par vous préparer comme ça à être demain ceux qui vont nous remplacer. Et je vous remercie pour le travail de ce matin. Je vous encourage à travailler davantage, à sensibiliser davantage, à informer davantage pour que ceux qui sont déjà à vos parents et vos grands frères puissent comprendre que nous sommes face à une situation à laquelle tout le monde doit travailler pour essayer de réduire l'impact. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à toute l'équipe de reportage pour cet élément qui est d'ailleurs le plat de résistance de notre émission.
Au Bénin et plus précisément chez nous à Gadomé, au sud du pays, la production agricole souffre énormément des effets des changements du climat. Voici une déclaration de M. Adam Mekomla, président de l'association des parents d'élèves du CEG Gadomé. Il parle ici en tant que cultivateur.
Les changements climatiques ont beaucoup de conséquences négatives sur nos activités agricoles. Nos activités dépendent de la pluie. On remarque maintenant que les saisons ne respectent plus leur périodicité. La sécheresse vient lorsqu'on attend la pluie. La pluie vient très tôt ou trop tard et nos récoltes diminuent considérablement, ce qui augmente la pauvreté villageoise. Mes chers journalistes, vous savez, les habitants de Gadomé sont en grande majorité des agriculteurs. Vous comprenez donc qu'en tant que tels, ils subissent sérieusement les effets des modifications du climat. Et puis, au-delà de ça, ces dernières années, le soleil est de plus en plus brûlant et plus personne ne se retrouve dans cette situation. Je voudrais sincèrement demander au gouvernement du Bénin et aux dirigeants du monde de bien vouloir faire quelque chose pour limiter un tant soit peu les effets de ce phénomène.
Nous pensons bien qu'ils vous écouteront et feront quelque chose dans ce sens.
Les effets des changements climatiques ne sont pas qu'agricoles. Bien d'autres secteurs en souffrent et on ne s'en rend pas compte. Suivez ici une simple illustration des effets de ce phénomène sur notre culture. Didier Hubert Madafimé.
En fait, quand on parle de changement climatique, on ne regarde pas les dégâts collatéraux. Bon, on dit le changement climatique touche l'agriculture, touche un certain nombre de secteurs et ça s'arrête là. Alors, moi, c'est un ami qui m'a appelé un jour, il est de la zone de Dassa, il est professeur à l'université, il m'a dit qu'il est allé à Dassa, il a envie de ramener Tiam. Et quand il est parti, il n'a vu que de petits Tiam. Il était étonné et puis ça a coûté assez cher. Quand il m'a dit ça, j'ai demandé au bon dame ce qui s'est passé. Et c'est là où on lui apprend qu'il y a peut-être 2 ans, 4 ans, qu'il n'a pas plu suffisamment. Il y a eu moins de pluie. Donc quand les dames ont commencé la production, à un moment donné, il y a eu une rupture dans la saison des pluies. Ce qui fait que la plante n'est pas arrivée à un état végétatif avant que la pluie ne s'arrête. Du coup, tous les éléments dont la plante a besoin pour grandir ne sont pas réunis cette année-là. On a peut-être eu quelques ans, mais pas suffisamment et pas ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Et on était proche de la fête du 15 août. J'ai eu une idée, je me suis dit, mais bon, la fête du 15 août, c'est basé uniquement sur l'IAM. J'ai dit, comment ça va se faire? Et j'ai commencé par faire les enquêtes. J'ai appelé des gens à Sabalo et autres. D'abord pour savoir pourquoi le 15 août à Sabalo est appelé la fête d'Iam. C'est là où ils m'ont expliqué que en fait, c'est depuis leurs aïeux que chaque fois qu'il y a la nouvelle Iam, leurs aïeux sont obligés de présenter l'Iam à leur Dieu, pour remercier les forces traditionnelles pour les avoir permis d'avoir la production qu'ils ont. Et ils le font avant de commencer par manger Niam. Donc je me suis dit qu'il est quand même important de montrer que le changement climatique va toucher des secteurs, mais il y a des choses fondamentales, par exemple, que les changements climatiques vont toucher et qu'on ne mesure pas. C'est par exemple notre culture. Or, chez les Sabalois, c'est quand même leur culture. La fête Niam, c'est leur culture. C'est ça, ils célèbrent tous les 15 août. Alors quand si on ne fait rien pour pérenniser la culture de Niam, qu'est-ce qui va se passer après? Donc il y aura la 15 août, la fête Niam, et on n'aura pas Niam. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à travailler sur la question. Et pour attirer l'attention des gens sur le fait qu'il y a des secteurs sur lesquels on focalise l'attention, mais il y a d'autres choses. Par exemple, si vous allez à Gomé, il y a une cérémonie qu'on appelle le Lihan. Le Lihan, le lit, c'est le mil. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si Dans le sud du Bénin, on produit encore le mil. Moi, quand j'étais au collège, je voyais des champs de mil et autres là. Et depuis un certain moment, je ne vois pas le champ. Je ne vois plus. Du coup, ça doit être au nord où les gens produisent encore un peu. Si par le fait des changements climatiques, la rareté des pluies autres là, on n'arrive plus à produire le lit là, le mil là, comment on va continuer à perpétrer quelque chose qui nous appartient, parce que la culture, c'est ce qu'on garde lorsqu'on a tout perdu. Donc comment on peut continuer par pérenniser notre culture, transférer à la prochaine génération si les éléments qui peuvent accompagner cette culture disparaissent. Donc c'est en cela que j'ai commencé par écrire. Et quand j'ai fini, il y a l'Alliance panafricaine pour la justice climatique qui a lancé un concours pour les journalistes. J'ai envoyé, puis j'ai été retenu. J'ai été invité à Nairobi pour aller chercher un trophée. Bon, je voulais profiter pour dire que ce trophée-là, ce prix-là doit être le 8e ou le 9e parce que j'en ai gagné suffisamment depuis que je travaille dans ce domaine-là.
Comment vous l'avez certainement compris, si rien n'est fait, nous risquons de perdre nos valeurs culturelles.
Mesdames et messieurs, à l'écoute de cette émission, nous en sommes à la fin. Vous pourrez la réécouter sur le site internet www.lesondenfants.be. Faites partie, Kinel Sontonji, Adamoume Jean-Paul, Yakwenu Marivo et toute la 6e M1 du CEG Gadomé vous remercie pour votre attention. Au revoir.
Bienvenue dans le son d'enfants. Le son d'enfants, émission radio des enfants qui s'engagent. Le son d'enfants,
une production des élèves de la 6e 1 du CEG Gadomé au Bénin en partenariat avec l'ONG Jomou en Belgique et l'ONG Carrefour Jeunesse Bénin.
Sexy, tu sais ce qu'on sait faire. Regarde cette mise, c'est fait comme si c'était une princesse. Pourtant, c'est la belle pistolet. Est-ce qu'on fait comme tu m'as, est-ce qu'on s'échauffe? N'entre même pas dans sa loge, ça pue du